Le truc, c'est qu'il n'y a pas de film indépendant, je sais pas, qui ne marche pas du tout. En fait, tous ces films marchent. Pour moi, qui du coup suit quasiment chaque semaine le box-office coréen, il y a toujours des films indépendants, que ce soit pas que des thrillers, même des comédies romantiques, c'est-à-dire le thème du FFCP, ou autre chose, ou des films de policiers, ou des films totalement autres comme ça, qui sont dans le top 10, mais qui au bout d'une semaine tombent. Et en fait, c'est pas une absence, je pense, de films indépendants, c'est une absence de films indépendants marquants, et qu'en fait, il y a une interchangeabilité qui est énorme dans ces films-là.
Mais c'est ce que ça rejoint un peu ce que je disais aussi, vu que maintenant les grosses boîtes ont monté leur label indépendant. Le but aussi pour ces boîtes-là, c'est que le film soit vu.
Quasiment
Donc,
chaque
je pense qu'il y a
semaine.
quand même de la promo, de la pub pour
Est-ce
que
qu'il y
les
a
gens
cette
s'y déplacent.
volonté que les films soient vus à l'international dans des festivals, hein? Parce que ça peut être aussi une marque de fabrique et le fait de briller à l'extérieur si jamais les films ne marchent pas forcément
Ce
en
que je
Corée.
vois, c'est que comparé à la Chine et au Japon, que je regarde aussi, la Corée, je pense, c'est celui qui a le box-office le plus tournant. Parce que,
D'accord.
à part,
Il y a
Donc il y a
énormément de
beaucoup de
films qui
films qui
sortent.
sortent,
Après, il y a
Vétéran,
énormément de
La
films qui
Destination.
sortent.
Mais au Japon aussi, en
Au
même
Japon
temps.
aussi. Oui, mais peut-être
C'est.
que les Coréens vont plus souvent au cinéma que les
Oui.
Japonais.
Ouais, mais les Japonais produisent autant de films, ce qui est assez
Oui, mais
paradoxal. Hein. Donc.
peut-être que les Coréens vont simplement plus au cinéma, du coup, ça tourne plus, quoi.
Parce que, à part Vétéran et donc Assassination qui vont rester dans le box-office pendant 10 semaines chacun, je pense qu'aucun film n'est resté plus de 3 semaines. Donc, depuis que je le suis, en fait, ce qui fait quand même depuis 3 mois. Aucun film, je pense, n'est resté plus de 2-3 semaines dans le top 10, alors qu'au Japon, t'as des films qu'on fait, même des films forcément marquants, qui sont restés dans le bas du classement pendant 4 semaines, 5 semaines. Moi, je pense qu'en Corée, il y a vraiment peut-être un surplus de films indépendants moyens. Enfin, du coup, ça revient à ce qu'on disait au début, mais je disais qu'en fait, c'est
Moyen
pas.
au
Voilà.
niveau de la
En fait,
notoriété
c'est pas
des
qu'il y en a
entrées
pas, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont au même niveau.
Oui,
Enfin,
il y en a
je veux dire
beaucoup.
ça, en fait, pour pas. Parce que je m'étais mal exprimé tout à l'heure. Je vais juste me corriger là-dessus.
Oui, bah on va peut-être enchaîner sur d'autres films marquants
Bah,
du
si on veut
FFCP.
continuer dans la critique, enfin la critique ou la dénonciation, Sociophobia,
Oui,
je vais
même si ça c'est
laisser.
plus général que
C'est plus.
seulement la Corée.
Oui, c'est pas forcément. Là, c'est un thème universel, mais c'est pas très étonnant que ce soit la Corée qui reprend ce thème-là, puisque la Corée est le pays des nouvelles technologies. Je vais laisser Elias en
Ouais, et
parler.
présenter le film parce que même si avec Social Phobia, un petit truc comme ça, on peut
Alors.
imaginer de quoi ça parle,
Mais
mais on
Elias
sait
va
pas encore.
présenter. Social Phobia. Alors en fait, c'est un film qui, je suis pas d'accord, que je trouve en fait marche beaucoup plus en Corée que dans d'autres pays. Parce que, enfin, après, moi, je pense pas que je suis le seul qui ait eu l'intervention du réal après le film. Et en fait, il a dit concrètement que la Corée, c'est un pays, ou encore plus que dans d'autres pays du monde, c'est dire à quel point tu peux très très vite te faire attaquer par Internet par tout le monde. Il a parlé d'une
Sur
composante
Internet.
sur Internet, c'est ce que j'ai dit. Je parlais
Je
de.
souligne la thématique du film pour que ce soit bien clair.
Je sais que je mange les mots, mais bref.
Et donc oui. Et en fait, la base du film vient en gros d'un exemple sur un sportif, le JO, qui avait perdu en finale ou en demi-finale, je ne sais plus. Je crois que c'était en judo. Et en gros, tout le monde était là, genre oui, bravo, super, etc. C'est quand même vachement bien, on est fier de toi, on est fier de la Corée. Il y a juste une fille qui a écrit non, c'est nul, tu aurais pu faire mieux, franchement, t'abuses de pas avoir été en finale ou d'avoir gagné. Elle s'est fait insulter et démonter par un millier de personnes, à tel point que des gens sont arrivés, ont
Sur
trouvé
les
qu'on.
réseaux sociaux,
Ouais, sur les réseaux sociaux, pardon, mais pas en vrai. On trouvait son adresse, et s'arrêtait là. Justement, et en fait, le film part de l'idée, qu'est-ce qui se passe si un sujet pareil, si quelque chose de pareil se passait, alors que là, ça parle d'un militaire qui est mort, et du coup, tout le monde est le pauvre, etc., sauf une personne qui dit oh là là, c'est bidasse, et heureusement qu'il est mort, parce qu'il était chiant. Et du coup, en fait, là, du coup, ça part du postulat, si les gens étaient vraiment allés la voir, et c'était vraiment monté au niveau encore au-dessus, qu'est-ce qui serait passé? Et donc là, cette fille, au début du film, se suicide. Et du coup, les personnages, la petite équipe qui s'était formée pour retrouver l'adresse et aller la voir pour la bastonner en direct, d'ailleurs, je tiens à le dire, sur un live stream, va tenter de voir si c'est vraiment un suicide, et ils pensent que c'est un meurtre, et est-ce que c'est un meurtre? Qu'est-ce qui aurait pu la tuer? En fait, on se rend compte qu'elle a un passé sur Internet d'attaquer des gens. Est-ce que ces gens-là seraient vengés d'elle? Est-ce que quelque chose serait passé contre elle pour la tuer? En fait, donc le film se base sur deux points. Le premier, sur les dangers des réseaux sociaux, et ce qu'ils peuvent faire de mal, enfin, comment les gens derrière un clavier peuvent faire des choses absolument affreuses. Et deuxièmement, sur comment des gens mis dans la culpabilité réagissent à leur entourage, comment leur entourage réagit à eux, et comment est-ce qu'ils vont faire pour essayer de se changer, de retourner le statut de coupable vers quelqu'un d'autre, absolument à tout prix. Moi, je sais que c'est une opinion qui est assez minoritaire dans la rédaction, mais j'ai trouvé ce film très efficace. Certes, comme j'ai dit au début du film, enfin au début du podcast, pardon, il passe à côté de beaucoup de choses, et je pense que c'est dû à plusieurs choses qui sont passées. Le réel avait une opinion, je pense, du film qui est différente de celle qu'il a montrée à la fin, enfin, du produit final. Mais je trouve en fait que le film montre bien ce qui peut se passer dans un pays comme la Corée, qui est très 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 axé aux nouvelles technologies, et comment ça peut dégénérer vers un point où ça peut causer la mort, à plusieurs reprises au final, et surtout comment un événement aussi horrible peut vite passer et être oublié en l'espace d'une semaine. Et on se rend compte, c'est pas un spoiler, mais...
C'est vrai qu'à ce...
À la fin du film, quelque chose, le film c'est une histoire horrible, à la fin du film ça passe vite à quelque chose d'autre, comme quoi d'une semaine plus tard il y a un nouveau scandale sur les pop stars qui ont fait quelque chose d'horrible, fait quelque chose de pas... voilà. Et du coup en fait je pense que c'est un film qui est certes, qui a beaucoup de défauts, de rythme, les personnages sont pas très caractérisés, il y a des idées qui sont mises en scène, qui sont mises en place, qui vont pas du tout assez loin. Par exemple, il y a Rachel Gondar qui pourrait être très intéressant, qui est un chef d'entreprise qui s'est fait...
Désolé, c'est toujours pareil.
Qui s'est fait attaquer donc, par la hackeuse, qui ensuite s'est fait attaquer elle-même. Et qui est un personnage qui pourrait être assez intéressant, comment tu réagis à ça, comment qui n'est pas du tout poussé. Une histoire alternative sur un dirigeant d'un forum sur StarCraft qui aussi s'est fait attaquer, qui du coup a perdu beaucoup de choses, c'est pas encore assez poussé. Et voilà, je pense que le film aurait mérité d'être plus poussé. Je pense que c'est un réal qui a beaucoup de potentiel, qui peut faire des choses très très bien, des très bons thrillers, parce que je trouve que le film, la forme est réussie. Je pense que je suis seul à le penser aussi, mais je trouve que la forme est très réussie. Et qui, je pense, il faut juste prennent un peu sur lui, qui décide de faire ce qu'il veut et pas se plier, comme il a dit après, aux attentes des spectateurs et des productions. Et je pense que Social Phobia, c'est le premier film, un film mineur, mais qui marche, une réelle qui peut faire des films majeurs plus tard.
Non, mais c'est sur le papier, et tout ce que tu dis, je suis à peu près d'accord. Ouais. Après, un des problèmes du film, c'est que les défauts sont aussi importants, à mon sens formellement, et qui font que le film ne marche pas. C'est-à-dire que il y a cette idée du suicide et d'une enquête qui va être faite par ce bras cassé qui voulait casser la gueule au début à cette personne qui écrivait sur les réseaux sociaux. Et l'enquête ne fonctionne pas du tout parce qu'on passe effectivement, ça on a discuté avec Elvire, d'un indice à l'autre qui les mène jusqu'à un autre indice. Alors là où ça pourrait être intéressant, c'est au bout d'un moment, on peut se demander... Là, c'est un peu méta, si justement ce n'est pas eux qui imaginent ces indices parce qu'ils veulent absolument trouver le fait que ce suicide soit un crime en fait.
Plus le côté que, évidemment, comme c'était live streamé, tout le monde les a vus, du coup ils se sont attaqués dans leur école, enfin pas directement, mais il y a toujours ce récurrent des mots sur leur casier qui crient genre espèce d'enfoiré, j'espère que tu vas mourir, etc. Parce qu'on pense que c'est eux qui ont tué la fille, du coup ils veulent absolument s'en débarrasser.
Après, c'est vrai que c'est un premier film, mais, ce qui est un peu dommage, c'est que le film est très lisse et très oubliable, en fait. Pour le coup, il n'a rien de marquant. Il s'intéresse à un fait de société qui est extrêmement moderne, contemporain. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait penser à d'autres représentations qu'on peut avoir sur Internet, comme un film comme Unfriend, qui c'est pas tout à fait le même sujet, mais en tout cas qui a une forme qui est beaucoup plus originale par rapport au sujet. Là, on a juste un moment, un chat qui apparaît sur l'écran, alors que c'est censé être un film qui parle des nouvelles technologies. C'est ce que faisait Jason Koe il y a 10 ans dans The Ward pour montrer des SMS sur un écran. Donc c'est déjà un peu... Ou Chatroom. Chatroom, c'est tout aussi intéressant là-dessus. Et ça date déjà d'il y a pas mal d'années. Donc il est quand même un peu à la traîne au niveau formel par rapport à ce qu'il veut montrer.
Surtout, ce qui est gênant dans le film, c'est qu'il y a des énormes facilités scénaristiques.
Ça, c'est hallucinant.
C'est hallucinant.
Il rentre chez les gens en ouvrant la porte, tout simplement. Il pénètre sur l'ordinateur. Il n'y a pas de mot de passe.
L'ordinateur est toujours
l'ordinateur est d'une hackeuse
l'ordinateur est toujours là dans l'appartement de la hackeuse alors que les flics sont supposés être passés
en fait je pense que ce film je l'aurais pas autant apprécié si j'avais pas vu justement l'interview auprès du réalisateur où il parlait de ses problèmes, il parlait de ce qu'il voulait faire et de ce qui s'est passé, et je pense en fait que c'est un film avorté, simplement que c'est un film qui aurait pu être un excellent film. Et moi, du coup, j'ai vu le potentiel là-dedans, j'ai vu ce qui pouvait, j'ai plus ressorti le bon et ce qui pourrait être encore meilleur dans les films suivants, plutôt que le mauvais, parce qu'il y a des trucs très mauvais, mais ça m'a moins marqué au final que les bons côtés, sûrement à cause de la présence du réal qui a pris du coup à parler et expliquer ce qu'il voulait faire à la base. qu'il voulait faire aurait été très intéressant. Ce qu'il a fait est juste correct. J'en ai mentionné pour moi correct plus.
Justin, est-ce que tu peux nous parler d'un des films qui t'a marqué dans ce festival?
Oui, donc je vais parler du troisième film de Jang Kun-jae qui est Midsummer's Fantasy. Alors, donc, avant de développer de quoi parle le film, il faut rappeler le contexte de production. Donc en fait, c'est un film qui a été commandé à Jang Kun-jae par le festival de Nara, donc qui est dirigé par Naomi Kawase. Et donc c'était la grosse contrainte au niveau du film, donc c'est une commande, mais la grosse contrainte c'était que ça soit tourné justement dans la région de Nara, au Japon. Et donc le sujet avec un sujet libre pour le réalisateur. Et donc il devait tourner dans cette région de Nara, dont l'environnement, les décors est forcément associé dans l'imaginaire, pour les connaisseurs du cinéma japonais, au cinéma de Naomi Kawase. Donc ça fait déjà une seconde contrainte, on peut dire, au niveau de la production. Et en fait, donc, le sujet du film, c'est le réalisateur a en quelque sorte mis en scène, on peut dire, son tâtonnement pour trouver un sujet, pour trouver une histoire à raconter. Ça fait partie du principe du concept du film, son propre tâtonnement à trouver quelque chose à raconter dans ce contexte étranger et dans cet univers qu'on peut dire qui ne lui appartient pas, qu'on associe plus à Naomi Kawase. Et donc ce qui fait que c'est un film qui est découpé en deux segments. Donc il y a un premier segment en noir et blanc où l'histoire, donc justement c'est l'histoire d'un réalisateur coréen qui vient tourner au Japon. Donc je ne sais pas s'il vient tourner un documentaire ou tourner une fiction, mais en tout cas il est amené à...
Lui-même ne sait pas, on a l'impression.
Et donc il est amené à faire des rencontres avec la population locale qui raconte les petites histoires du pays ou leurs histoires personnelles, et dont il se nourrit. Donc on peut imaginer que le réalisateur du film, c'est une espèce de double du réalisateur de Jang Kun-jae, qui imagine ses propres doutes, sa propre recherche de sujet dans ce contexte. Et justement, donc ça ce qui amène la deuxième partie, vu que c'est une anecdote qu'on lui raconte dans la première partie, il y a son guide japonais qui lui raconte dans la première partie, donc qu'il a eu pas une romance, mais qu'il a rencontré dans la région une coréenne de passage dont il est tombé amoureux, mais apparemment il ne s'est rien passé. Et donc il y a une transition qui fait, ce qui lie les deux parties, c'est un passage dans une école abandonnée. Donc lorsqu'on arrive dans cette école, il y a la transition vers la seconde partie où qui raconte justement cette histoire qu'on lui a rapportée dans sa première recherche de sujet, donc entre cette rencontre entre le jeune japonais puis une coréenne qui est là en vacances. Et donc du coup la deuxième partie est beaucoup plus prenante, même si c'est indispensable, la première partie reste indispensable dans le procédé du film. Et donc cette deuxième partie, donc c'est beaucoup plus contemplatif, alors qu'on n'avait pas particulièrement aperçu la région. On avait vu quelques passages, quelques ruelles, quelques décors, mais dans la partie en noir et blanc, recherche de sujet, comme si le réalisateur était aussi perdu que son personnage dans ce contexte. Et dans la deuxième partie, donc c'est beaucoup plus contemplatif, un peu plus romantique avec la balade entre ce japonais et puis cette coréenne. Donc ça peut rappeler, pour ceux qui connaissent un peu les films de Richard Linklater, Before Sunset, Before Sunrise, où il y a un côté un peu contemplatif où on suit des personnages qui discutent dans des décors, dans un environnement. Sauf que là, c'est plus associé à un cinéma, plus à une personnalité, plus d'un cinéma asiatique. Vu que c'est dans les non-dits, vu que le Richard Linklater, ils n'arrêtent pas de parler, c'est plus bavard, plus un peu Woody Allen, plus... Alors que là, c'est beaucoup plus retenu, on sent la retenue plus associée à l'Asie, à la personnalité du cinéma asiatique, où c'est plus dans la retenue, dans ce qu'ils ne disent pas, qu'on peut trouver les failles, le rapprochement entre les personnages. Donc ça peut être agaçant, vu ce côté très retenu, justement, si on ne rentre pas dedans, mais bon, il y a des belles images,
Pour le coup, c'est pas du tout cette deuxième partie qui est plutôt charmante, finalement, c'est un couple qui se crée et qui a pas d'avenir, puisque le personnage est de passage, donc disparaît, mais c'est plus l'articulation entre cette seconde partie fictionnelle Et la première partie qu'ils ont faite est aussi fictionnelle, mais qui raconte ce réalisateur qui va chercher son sujet, que j'ai trouvé très longue et pas très intéressante au final dans leur articulation.
Mais j'ai l'impression que c'est un peu volontaire, vu qu'il met en scène en quelque sorte son propre tâtonnement à chercher quelque chose à raconter.
Mais justement, je trouve que dans cette première partie, ça aurait été même justement de voir le tâtonnement d'un cinéaste, c'est toujours passionnant. Et je trouve que là, pour le coup, il n'y a pas vraiment grand-chose de passionnant parce qu'il visite juste des personnes. En fait, moi, je m'attendais en voyant le film, je me suis dit, ah chouette, c'est un film où ça ressemble un peu à du Song Soo, il y a un personnage de cinéaste, ça va parler de cinéma, il va y avoir des pistes, des réflexions, et au final, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, quoi. Ça parle pas vraiment.
Le problème du film, c'est qu'on ne sait pas ce qui vient tourner, voilà. Du coup, ça enlève peut-être pas mal de lectures.
Fait exprès d'être chiant, c'est pas top quand même.
Oui.
Non, parce qu'il y a quand même, des beaux moments.
C'est un petit peu ça quand même.
L'entrevue avec la vieille femme âgée qui doit avoir au moins 90 ou 100 ans. Il y a des beaux moments même dans la première partie. Et puis là, comme tu disais, Victor, la deuxième partie est vraiment charmante. Finalement, la partie à laquelle je ne m'attendais pas, l'espèce de roman, c'est vraiment réussi. Mais le problème, c'est qu'il y a toute cette première partie qui n'est pas vraiment très intéressante, alors que ça aurait pu être vraiment comme Chion Kansu, donc son dernier film, où il y a quelque part, on va en reparler, quelque chose d'intéressant.
À la rigueur, on peut en parler maintenant, vu qu'on fait la transition avec le film de clôture, donc qui, comme chaque année, pas l'année dernière, mais comme quasiment chaque année, donc le Hong Sang-soo de l'année, c'est Right Now, Wrong Then. Nicolas, t'en as pensé quoi?
Moi, je trouve que c'est comme ces deux derniers films, en fait. Orson E et puis c'était quoi le dernier, c'était Hills of Freedom. Je trouve que c'est un très bon cru. Je trouve que à chaque fois, bon, on retrouve toutes ces thèmes de prédilection, on retrouve ce côté cette répétition permanente de ces figures et de ces
Elvire qui soupire déjà
et de ces motifs. Et là, pour le coup, c'est encore plus flagrant que ces anciens films, puisque c'est carrément deux parties, divisé en deux parties, qui racontent la même rencontre entre deux personnages.
Avec les mêmes dialogues.
Les mêmes scènes, mais avec des petits détails qui diffèrent, des petites différences, et qui en fait représentent un peu le yin et le yang du cinéaste, en fait, du réalisateur.
Right
tout
now,
ça,
wrong
tout
then.
Ça, carrément.
Voilà.
Ouais. C'est d'autant plus génial, c'est que le film parle aussi, surtout, du cinéma de Hong Sang-soo, et ça faisait longtemps qu'il avait pas fait ça. Le personnage principal est un cinéaste.
Et pour le coup, c'est
passionnant.
C'est original, ça. Un cinéaste. Alors, il a toujours travaillé cette figure du double fictionnel, et en fait, il la travaille de deux manières différentes. On a une première partie qui est franchement une comédie, on le voit avec l'utilisation d'une voix off qui est extrêmement ironique. Donc le personnage pense des choses, en gros, il y a une jeune femme qui va essayer de draguer pour la mettre dans son lit de manière très claire, et il va agir de manière complètement hypocrite tout le temps, en jouant de son statut de cinéaste. Alors c'est un cinéaste d'art et d'essai, donc les gens ont vu, personne n'a vu ses films, mais tout le monde connaît son nom, donc on reconnaît ce que peut être Hong Sang-soo, en tout cas l'idée que l'on peut se faire d'Hong Sang-soo. Et cette première partie qui dure une heure est vraiment dans la veine de Haha, c'est-à-dire une veine franchement comique qui travaille l'hypocrisie des hommes dans leur relation aux femmes, la posture de l'artiste qui en fait est complètement complexé par rapport au monde qui l'entoure. Et c'est vrai qu'on est dans cette musique, pour ceux qui aiment le cinéma d'Hong Sang-soo, on s'y sent extrêmement bien. C'est un cinéma qu'on connaît, avec des codes qu'on connaît. Il y a une rupture au milieu du film, le générique est au milieu du film, et en fait on repart sur les mêmes bases. Et là, en fait, il y a un décalage sur tout ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'il reprend les mêmes situations, il reprend à peu près les mêmes dialogues, il modifie légèrement le jeu des acteurs. C'est-à-dire que les acteurs qui avaient un jeu un peu exagéré ont un jeu un peu plus naturaliste dans cette deuxième partie. La voix off a disparu, donc la perception qu'on a du cinéaste change légèrement. Ce qu'il dit semble être un peu plus sincère. Et on se rend compte qu'en fait, tout le point de vue est changé par rapport à cette petite modification de mise en scène. Le cinéaste est sincère, la situation se déroule de manière complètement différente. Et grâce à la mise en scène et au cadrage, on est dans un jeu complètement différent de ce qu'on a vu dans la première partie. Et on s'amuse à repérer effectivement un jeu des 7 différences entre les deux films, tout en étant un peu décontenancé sur ce que l'on attend d'un film d'Aung Sang-soo, parce qu'il nous l'a donné dans la première partie, et il le fait en rejouant sur ses codes. Donc c'est un film qui, pour moi, est un des films assez majeurs de Aung Sang-soo, parce qu'il arrive donc à retravailler tous ces thèmes, tout en déviant légèrement le regard et en nous faisant voir ces films de manière un petit peu différente. Et c'est, à mon sens, c'est un film encore plus important que ces derniers, et certainement, en tout cas, le plus satisfaisant depuis AA en termes de comédie pure, et le plus intéressant depuis Conte de cinéma, peut-être, en tout cas depuis très longtemps, sur ce qu'est le cinéma, sur ce qu'on attend d'un auteur, sur ce qu'est le pouvoir de la mise en scène par rapport à ses artifices, et ce qu'est le regard du spectateur sur l'œuvre d'un cinéaste. Alors, malheureusement, c'est vrai qu'il faut connaître le cinéma d'Aung Sang-soo pour pouvoir un peu apprécier le film, et apprécier le cinéma d'Aung Sang-soo pour apprécier le film, ce qui est une tautologie, mais c'est vrai que si on n'aime pas, je pense qu'on voit à peu près que les défauts, même si lui-même souligne les défauts. On peut faire comme Martin et on dort.
Par contre, c'est vrai que... Il y a une scène de soju, quand même.
Ah oui, il y a une scène de soju, et c'est un plan fixe qui dure 15 minutes. Donc deux fois 15 minutes de plan fixe, où les personnages sont complètement bourrés au soju dans le film.
Ah, où c'est... les acteurs sont complètement
bourrés. Où les acteurs aussi, mais c'est effectivement un passage obligé du film. Et donc, il y joue aussi en proposant deux variations sur la même thématique.
Même cette scène, ils ne sont pas bourrés pareil, quoi. C'est super intéressant.
Mais à chaque fois, ce qui est impressionnant, c'est juste la manière de diriger les acteurs, c'est la manière, sur d'autres scènes, sur changer le cadre légèrement. Et en fait, on se rend compte que les personnages, suivant qu'on les cadre une minute après, une minute avant, ne regardent pas la même chose, et donc que le sens de la scène diffère. Par exemple, le personnage de cinéaste, donc il essaie de draguer une artiste qui est peintre, il va la voir dans son atelier. La première partie, en fait, on voit uniquement... on ne la voit pas peindre, on la voit après, on voit le réalisateur qui la regarde, elle, fascinée, et qui donc ne pense en gros qu'elle a sauté. Quoi. C'est, voilà. C'est son regard.
Deuxième partie,
on voit ce qui se passe un peu avant. Et en fait, le réalisateur regarde la manière dont elle peint, et on sent qu'il est subjugué par la manière dont elle peint avant d'être subjugué par elle. Et donc, rien qu'en rajoutant quelques secondes dans son film, en décadrant légèrement l'axe de sa caméra et en changeant le champ, toute la signification de la scène est changée.
Et puis ça va.
Vous me dites si j'ai tort.
Yannick.
Ouais, vous me dites si j'ai tort. Mais donc, on voit deux fois un film d'une heure qui raconte exactement la même chose. Et ça ne peut être apprécié que si on connaît les autres films du réalisateur.
C'est ça.
Merci pour ton résumé très brillant.
Donc, tu as raison. Si tu as vu les 20 autres films du réalisateur, tu comprends effectivement ce qu'il a
pu faire. C'est du lourd, là.
Ah bah c'est pas pour le public lambda.
C'est pas pour le public lambda. Après, on s'en fout, c'est un cinéaste qui... son film le plus accessible.
Ça, c'est drôle quand même.
Je pense qu'on peut être séduit quand même sans connaître son cinéaste par la première partie. On peut après s'y plonger si on est intéressé par ce qui s'y passe.
Même dans la deuxième partie.
Et même dans la deuxième partie,
ouais. Il y a une scène hilarante à la fin où le réalisateur se déshabille devant des femmes interloquées.
Un peu puritaines d'ailleurs, pour le coup, et qui ne comprennent pas trop ce qui leur arrive. Tout comme le spectateur qui ne s'attend pas à ça, vu qu'il a déjà vu le film, et que là, tout d'un coup, il y a quelque chose de différent qui se passe.
On voit la même scène, mais elle part dans une direction complètement différente, complètement loufoque, et du coup, ça donne une autre résonance, comme tu disais. Ouais.
Alors c'est dommage que Martin ne soit pas là, comme il l'a vu, pour dire à quel point il s'est ennuyé, mais effectivement, c'est un peu ce reproche que tu peux faire, Yannick, c'est que c'est un cinéma d'initié, d'une certaine manière. Après, moi, c'est vrai que je suis acquis au cinéma d'Aung Sang-soo, donc c'est pas forcément une critique que je peux lui faire. Après, je peux concevoir que l'on ne soit pas forcément réceptif à ses films, ou que ce soit un peu dur.
Quand je vous entends en parler, là, ça sonne prétentieux comme cinéma, mais...
Ça l'est pas tout à fait notre... Alors, c'est peut-être mon regard qui...
Non, parce qu'il fait son autocritique aussi à travers ses deux visions, justement... du même cinéaste.
Il fait son autocritique depuis.
Il parle de lui,
films,
ouais, mais au final, c'est pas prétentieux, mais
autocritique.
Il parle de la position.
C'est vachement nombriliste. artiste en fait.
Mais non, mais il parle de la condition de réalisateur. C'est normal, on va dire un réalisateur, ça, la plupart du temps quand il fait un film, il parle aussi de son expérience, de lui, de comment il ressent les choses. Là, c'est pareil. Et c'est marrant de voir.
Un réalisateur montre sa vision, mais parle pas forcément de lui.
Un réalisateur est forcément un peu nombriliste, quand même.
Voilà, un petit peu. Et puis, il parle pas forcément de lui. Il y a quand même des choses de lui qui ressortent dans la façon dont il met en scène ses films, même inconsciemment. Et là, moi, je trouve que c'est intéressant des cinéastes qui parlent d'eux, mais qui pas forcément parce qu'ils sont prétentieux, mais parce qu'ils essayent de faire comprendre pourquoi ils font des films comme ça, pourquoi cet art, avoir choisi cet art-là, pourquoi, voilà, c'est comme ça qu'on les connaît de mieux en mieux aussi.
Alors après, c'est extrêmement drôle, hein. Peut-être que ça apparaissait pas, mais c'est quand même une comédie. Il y a beaucoup de cette autocritique, c'est pas une autocritique sentencieuse, sérieuse, c'est beaucoup d'ironie sur lui-même, mais c'est vrai que c'est un cinéma relativement introspectif. Mais qui après parle, de tous les hommes, de la société coréenne, du cinéma, du regard du spectateur, des réalisateurs, de ce que nous on perçoit d'un film, de ce que nous on voit dans une scène d'un film, dans son caractère répétitif. Le dispositif est extrêmement ingénieux, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vu, on peut dire du côté intellectuel, chez Alain René dans Je t'aime, je t'aime par exemple, ou Smoking, No Smoking, mais aussi dans le cinéma populaire, avec Un jour sans fin,
de Woody Allen aussi.
Il y a Nan Rigby qui est sorti il n'y a pas longtemps, avec la vision soit de Jessica Chastain et après de James McAvoy. Voilà,
ouais. Voilà, donc c'est
exactement le même procédé.
C'est le film qui rassemblait les deux d'ailleurs.
Ouais, voilà,
c'est un dispositif qui est aussi intéressant cinématographiquement.
Juste une petite question à poser sur l'humour. Parce qu'on a vu dans... C'était pas Isle of Freedom, c'était dans... Je sais plus quel film, il n'y a pas longtemps. L'humour de Aung San Suu est assez particulier, basé sur des jeux de mots. Donc totalement incompréhensible pour nous. Parce que, apparemment, de parler couramment coréen, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est encore le même type d'humour, en fait
Moi, je trouve que c'est
un
humour
de... À base de verre de soju, en fait, avec des jeux de mots qu'on ne comprend pas.
Alors, peut-être, mais si je ne le comprends pas, je ne peux pas dire.
Je ne vais pas aimer, donc
non, mais c'est peut-être. Donc ça, je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas. Pour moi, c'est un humour de situation.
Il suffit d'entendre, en fait, les Coréens rigoler dans la salle.
Les Coréens rigolent beaucoup dans la salle, mais j'ai aussi trouvé ça extrêmement amusant parce que c'est un humour de situation qui joue sur le mal-être social. C'est-à-dire comment, quand on est bourré et dans une compagnie de personnes auxquelles on n'a rien à dire, comment se comporter, comment être en décalage par rapport à ce que l'on attend de nous. C'est des choses qu'on retrouve. Par exemple, c'est vrai qu'on compare souvent Aung San Suu à Romère. Je vous ramène au podcast numéro 3 qu'on avait fait avec Sidi et Julien il y a 2 ans. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé que c'était toujours à la fois plus proche d'Alain René dans le dispositif et au niveau de l'humour de situation, assez proche de ce que peut faire un Seinfeld ou un Larry David dans Curb Your Enthusiasm, c'est-à-dire mettre des situations, mettre des personnages dans des situations où ils sont socialement en inconfort. Et comment, à partir de là, ils vont s'en sortir et en fait agir de manière à ce qu'on attende qu'ils agissent et faire quelque chose qui va empirer encore la situation. Donc ça parle aussi, effectivement, de ce qu'on attend socialement. La scène où un réalisateur bourré au soju chez deux libraires va se mettre nu sans trop réaliser ce qu'il fait.
Ça joue
énormément. Et ce comique de situation, effectivement, il y a ce côté culturel qui joue, mais c'est quelque chose d'assez accessible également.
Certains de ces films ont quand même un humour très culturel, en fait. Enfin, même si on peut rigoler parce qu'on a... Oui, ils sont bourrés à l'écran, donc c'est marrant. Ce qu'ils vont dire n'est pas forcément pour nous. Donc quand ça dure un quart d'heure...
Je sais pas. J'ai jamais ressenti ça par rapport à,
son cinéma. Je pense que c'était dans la scène de beuverie dans Arseny. Moi, je suis désolée à pas entendre parler de gens entendre des gens parler de... creuser le sol et faire une tombe pendant 10 minutes en fait et toi tu...
C'est dans Ha-Ha.
Non, c'est pas dans Ha-Ha parce que je l'ai pas vu.
C'est creuser c'est dans Arsenic.
Moi ça m'a pas fait rire en fait.
Oui, mais après il y a
parler de ça pendant 10 minutes
il n'y a pas que ça après.
Et puis tu comprends, enfin moi je trouve que Aung San Suu c'est quand même un cinéaste assez génial parce que au-delà des mots, par l'intonation déjà, tu comprends effectivement qu'il se passe quelque chose de décalé. Et après, par le cadrage, il te le fait dans cette scène. C'est une scène qui dure aussi longtemps avec Sonny qui est au centre de la scène. Et par la manière dont il cadre un plan, tu comprends toute la situation et de la manière dont cet inconfort social se crée.
D'accord.
Je pense qu'on aura besoin de refaire un podcast spécial sur Aung San Suu. Amandine,
non, c'était pour rebondir sur le fait qu'on ne comprend pas toujours l'humour. Je suis allée voir Turning Gate au cinéma. Et dans la scène de Beuvray, en effet, il y a des moments. Enfin, il y a. J'ai bien aimé le film, mais il y a toujours des moments qui, moi, personnellement, m'ont complètement échappé, en fait. J'ai pas compris. Et je pense vraiment, ça se voit dans le film, que c'est. Parce que c'est... on n'est pas concerné culturellement, en fait.
Oui, mais ça vaut pour tous les cinémas, ça. Il y a toujours des notions qui nous échappent.
Je pense que tu peux le comprendre, en fait. Tu comprends que c'est drôle, mais tu comprends pas pourquoi c'est drôle.
Voilà,
en fait.
C'est ça.
Voilà.
Admettons, je pense que de toute façon, le film va sortir en France. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que les films de Kung Fu marchent plutôt mieux en Occident et en France particulièrement. En fait, que en France d'ailleurs.
Alors en Corée, il est considéré comme un réalisateur pour vieux.
Voilà.
En France aussi,
c'est...
tu me diras. Mais,
pas,
mais un peu
pas
moins.
Pas tant que ça, mais en tout cas, il a ses 100 000 spectateurs qui vont voir tous ses films, donc ce qui est plus qu'en Corée à peu près. Voilà, bah, peut-être qu'on va conclure sur la FFCP. Nicolas, si tu as d'autres films
si vous voulez faire
qui étaient
peut-être
importants.
D'autres personnes qui avaient voulu recommander un film que... Non, c'est bon. Bah, moi, j'avais juste déjà les comédies romantiques, parce qu'il y avait une section focus sur les comédies romantiques coréennes cette année. Et moi, bon, je déteste pas forcément les comédies romantiques, et j'aime bien en voir de temps en temps, c'est assez amusant, on passe un bon moment, tout ça, c'est léger. Et je trouve que la sélection qu'ils ont faite cette année était plutôt pas mal parce qu'il y avait toujours une originalité de genre. Par exemple, mêler le film d'horreur ou le film de fantôme à la comédie romantique. Toujours quelque chose, un petit point d'originalité qui donnait du sel au film. Et puis, c'est quand même plutôt bien écrit. Tous les acteurs sont tous charmants. Le Zhang Jing, là, qui était présenté Someone Special, qui était vraiment très intéressant, avec le même acteur que dans le Hong Kong Su d'ailleurs. Et,
excellent acteur.
Je ne me rappelle plus, j'ai plus son nom. Je trouve que leurs comédies romantiques sont vraiment pas mal dans le genre. Enfin, pour moi, ça vaut les comédies romantiques américaines, enfin les meilleures comédies romantiques américaines.
Je pense qu'ils ont sélectionné les meilleures comédies romantiques coréennes.
De ces dernières
années. Parce qu'il y en a énormément.
Et sinon, deux films qu'on n'en a pas parlé, qui m'ont plutôt plu, en plus de Highland, évidemment, et de Assassination, Vétéran, tout ça, c'est donc 20, donc, qui est une espèce de comédie sur un sujet très très abordé dans le cinéma coréen, qui est les années lycée. Alors, comme on a l'habitude dans le cinéma coréen de voir des films très pessimistes, un peu dépressifs, voire très violents sur...
Une question bête, mais... Pourquoi ça s'appelle 20 si c'est les années lycée ?
Enfin, c'est 20 ans, c'est à la fin en fait. C'est la fin
c'est
des...
quand ils vont passer l'examen pour rentrer à la fac.
Voilà.
Le fameux sous-menu.
Voilà, c'est ça. Donc c'est alors la fin justement. Et donc voilà, ils vont sur la vingtaine en fait. C'est pas forcément, je crois qu'ils ont pas forcément 20 ans.
Non, ils doivent avoir 19 ans. Je crois qu'ils ont 19 ans. Il doit y avoir une année de plus en Corée par rapport à nous.
Voilà. Voilà, donc c'est, je trouve que par rapport à tous ces films violents, dépressifs sur le sujet, c'est vraiment une comédie super, très légère. Peut-être que ça va pas très loin, mais c'est. Enfin, moi j'ai eu des crises de rire plusieurs fois pendant tout le film, je trouvais ça ultra drôle.
Elle vient.
C'est exactement le genre d'humour un peu. Parfois un peu vulgaire, un peu pas très fin, mais moi ça me fait rire parce qu'il va à fond dedans, il se pose pas de questions, et puis c'est le rythme est vraiment parfait, c'est très bien mis en scène, et voilà, j'ai vraiment passé un super moment.
Elle vient. J'ai un petit bémol, j'ai trouvé très sympa. Franchement, j'ai passé un très bon moment, un peu long. Une comédie qui dure plus de 2 heures, c'est un peu long, mais ouais.
Moi, je trouve même pas.
Sympa. Par contre, il y a quelque chose qui m'a un peu refroidi. J'ai trouvé, on peut le dire pour plein d'autres films, mais même pour une comédie, qu'ils n'allaient pas assez loin. C'est quand même un film pendant 2 heures où ils ne parlent que de cul, quasiment. Et la seule chose qu'on voit, c'est un petit baiser.
Oui.
Non, mais du coup, j'ai trouvé qu'il y avait
après,
un côté puritain, en fait.
Non, c'est pas forcément ça. C'est l'impression que c'est très référencé, les comédies. Alors, c'est des années 90 américaines, pareil, des années 90, où c'était exactement le même genre de truc.
Oui, mais ça veut dire qu'ils en sont toujours là, en fait.
Ouais,
et
mais c'est
sans entrer dans la vulgarité d'un American Pie.
Et encore, les années 90, ils faisaient American Pie. Le but, c'est justement qu'à la fin, ils perdent leur cuffinage.
American Pie n'est pas particulièrement nul, je pense que c'est un des grands films.
Mais
fin des années 90,
non, mais ça change. Ça a été. Ça a apporté une nouveauté, mais je l'ai pas trouvé génial. J'ai trouvé un peu trop. Je pense que la Corée aurait pu traiter ça avec moins de vulgarité, même si c'est pas tout à fait la même vulgarité, mais du coup j'avoue que je suis restée un peu sur ma fin.
Il y a quand même la seconde partie, ça parle. Enfin, il y a quand même une évolution au niveau des personnages, dans leur entrée à la vie active, la façon dont ils évoluent par rapport à leur vie. Ouais, ils tombent amoureux, mais je veux dire même au niveau de leur milieu social, enfin ils sont pas tous du même milieu social. sont pas par rapport à leur proches et tout ça, il y a quand même quelque chose d'intéressant par rapport à la famille aussi. Donc ça oui, parle pas que de cul, c'est pas concentré sur le...
C'est pas concentré que sur ça, c'est sur une bonne partie. Mais par contre, du coup, ça manque un peu de réalisme à un moment donné, quoi.
Ouais, mais c'est pas fait pour être réaliste non plus. Hein,
bah, les thèmes abordés sont très réalistes.
Ouais, des mais jeunes c'est abordé avec légèreté, c'est justement c'est pour...
Non, mais tu peux être léger et réaliste aussi sur la façon dont tu vis tous les jours, en fait. À un moment donné, tu vas coucher avec une nana ou avec un mec. Enfin, là, que ça s'arrête au baiser, en fait, c'est mignon. Mais
ça s'arrête pas au baiser. Il y en a un, il prend tout ce qui passe. Donc...
Ouais, mais alors, c'est jamais montré à l'écran.
Bah, une fois, quand même. Enfin, vite fait. Je me rappelle plus, ou c'est juste le début, ou peut-être, mais c'est rien. Mais c'est même pas le plus important dans le film, on s'en fout.
Non, mais on s'en fout, mais c'est un petit bémol. Enfin, moi, juste, j'ai eu l'impression de voir un film un peu puritain, en fait. C'est tout.
Bon, on enchaîne sur un autre film.
Non, j'ai juste un petit truc, je l'ai pas vu. Hein. Mais je sais qu'un des acteurs fait partie d'un groupe de K-pop que je connais pas personnellement. Mais ce que je sais, c'est que à partir... Enfin, il y a l'impossibilité de montrer des idoles dans des situations un petit peu trop osées, ce genre de choses. Après, ils sont complètement rejetés et lynchés.
Du coup, c'est ce côté puritain dans le contrat, qui m'agace un peu de la Corée en général, en fait, qui est très américain.
Moi, ça m'agace aussi dans le genre. Mais là, j'ai trouvé ça tellement drôle et c'était tellement, tu passes tellement loin de ça, au fait. Tu dis, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas, ils montrent pas grand-chose. Mais
je m'attendais à tellement des scènes drôles, en fait, à des scènes qui abordent le sexe de façon réelle, drôle aussi, en fait. Oui. Ce qui aurait été... Parce qu'en fait, au début, la première demi-heure, je me suis dit, c'est une comédie qui renouvelle un peu le genre de la comédie coréenne. Parce que les comédies coréennes sont quand même assez mielleuses et sirupeuses. Je me suis dit, bah, cool, ça va être un peu plus trash. Ouais. Et finalement, je suis retrouvée à une comédie qui change un peu, mais pas complètement non plus. Du coup, je suis restée sur ma fin. C'est tout. En
fait. Ouais, mais après, il y a trois personnages et ils n'ont pas toutes la même... tous les trois la même trajectoire, même au niveau de leur vie amoureuse et tout. Il y a des constats différents, donc c'est à plusieurs visions, c'est pas forcément tout qui est bien qui finit bien. Bon,
on va passer à un autre film, voilà. Parce que sinon on va faire un podcast d'une heure là-dessus.
Voilà. Et sinon, bah, le deuxième film qui m'avait beaucoup plu, c'est Giwa, qui est une espèce de road movie bucolique, avec, bah, là on en revient à un des thèmes principaux que vous avez évoqué plus tôt, qui était aussi dans d'autres films comme My Dictator, qui est la relation père-fils. Donc là, en fait, c'est un fils qui sort de prison. Au début, on ne sait pas trop pourquoi. Bon, je ne vais pas vous dire parce que sinon, vous n'aurez plus envie de voir le film. Mais donc, il y a, en gros, tu te rends compte que c'est lié à son père, qui se voit plus, qui se parle plus. Et donc, tu as l'ami du père qui décide de aller chercher le fils à la sortie de la prison et de partir dans une espèce de road movie pour que les deux puissent se retrouver. Et donc, à partir de là, il y a une espèce de... Voilà, c'est un road movie vraiment mélancolique, très drôle. On s'attache beaucoup au personnage.
C'est super
assez émouvant, c'est bien joué.
C'est rare encore.
C'est très bien mis en scène. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment chouette
ça
comme film.
Ça se lâche au milieu du podcast.
Non, mais c'est joué justement.
Je trouve que ça aurait pu tomber dans le pur mélodrame, le pur pathos, un peu sur la fin, mais c'est assez équilibré. Il y a des moments très drôles.
Très triste.
Les acteurs sont chouettes. D'ailleurs, l'équipe du film est restée, fait partie de ceux qui sont restés tout le festival.
Et vous pouvez lire une interview d'ailleurs.
Voilà.
Martin a pu boire un thé avec eux après, donc ils sont très gentils.
Ils sont des crèmes, quoi. Ils sont vraiment des. Enfin, voilà, quoi. Bon, on pouvait boire des coups avec eux sans problème, discuter avec eux sans problème, c'était vraiment cool. Et voilà, c'est vraiment un film que. Bon, il sortira jamais en France.
Mais c'est un très beau film et très touchant et assez juste. Pour une fois que ça part pas dans l'extrême, en fait, soit dans le pathos ou dans la violence, c'est un film reposant et à la fois. Enfin, on ressent plein de choses. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne surprise.
Moi, c'est une conclusion optimiste sur le cinéma coréen et sur le FFCP, en tout cas, qui fêtait donc ses 10 ans l'année prochaine. Il y a déjà une 11e édition qui est annoncée l'année prochaine.
Sans oublier, je pense qu'on y sera. Que dans le cadre de l'année France-Corée, le FFCP organise tous les dimanches, enfin un dimanche par mois, une projection d'un film coréen jusqu'au mois d'août.
Il y en a un dimanche
prochain. Au cinéma, et ça commence
demain.
Il y en a un dimanche prochain, et
tous les dimanches. Ouais.
Voilà. Des inédits, des films du festival ou
Non, des films qu'on a.
Pour Old Boy.
D'accord, c'est les classiques.
C'est des classiques, mais justement qui permettront peut-être à ceux qui les ont jamais vus, en tout cas sur grand écran, de les voir. C'est plutôt une bonne initiative. Ça permet au festival de rester présent toute l'année avant la prochaine
édition.
Édition.
Allez, cette question, c'est y aura-t-il cette magnifique conférence festival avant les séances
Hein, c'est, une question, c'est y aura-t-il cette magnifique bande-annonce du festival?
Alors non, il y aura une nouvelle bande-annonce, je pense, pour la prochaine. Séance du dimanche,
je ne pense pas que ce soit sponsorisé par Asiana, Kumo et Kia.
En tout cas, moi j'attends Onks en dessous l'année prochaine pour le festival.
Mais il ne viendra jamais.
Qu'il puisse venir enfin avoir une. Donc avoir une petite interview, enfin c'est moi qui aurai une petite interview. Oui,
qui vient tout Isadia aura une interview.
Qui viennent au FFCP.
Qui viennent au FFCP.
Pour le coup, on pourra vraiment boire des coups avec Onksoussou.
Ça fait
5 ans.
Je pense que ça fait des années à chaque fois qu'on dit qu'il va y avoir Onksoussou qui vient à un moment donné en France, parce que soit pour des.
En France, on est toujours fait aller au Black Movie pour le voir.
Mais il tourne tout le temps.
Puis je pense qu'il y a autre chose à foutre.
Mais on va quand même poursuivre avec le cinéma coréen, en fait, et on va parler de Terror Live, un film qui avait été montré l'année dernière, il me semble, au FFCP, oui, et qui est sorti en DVD à la rentrée. Yannick.
Alors oui, une très belle surprise, ce Terror Live. Un thriller particulièrement efficace, qui parle d'un ancien grand journaliste qui a été, après une faute, relégué dans une petite radio locale, et qui reçoit un coup de fil le matin d'un mec qui se prétend être en fait un terroriste. Bien évidemment, le héros ne le croit pas. Et pour prouver ses dires, il fait exploser le pont juste en face de la radio. Le film, en fait, c'est un huis clos qui se passe exclusivement dans la radio, avec la plupart du temps un gros plan sur le héros. Le film est particulièrement tendu, réussit vraiment à être tout le temps intéressant, avec donc juste le personnage principal dans la radio, la régie, et on voit ce qui se passe à l'extérieur seulement grâce à quelques écrans de télévision quand le héros regarde dehors. Ça se rate quelque peu sur la fin où il y a des gunfights, où ça dégénère un petit peu, ce qui n'était pas forcément nécessaire, mais on a un film qui vraiment évite tout temps mort, qui réussit à être prenant d'un bout à l'autre avec le personnage principal qui tient le film sur ses épaules, les conversations très tendues avec le terroriste, et avec un contexte politique certes classique, certes pas franchement subtil comme souvent avec le cinéma coréen, mais quand même assez intéressant. Donc The Terror Live, c'est vraiment, vraiment un thriller qui mérite d'être découvert.
Je suis à peu près d'accord avec toi. J'ai des quelques petits bémols sur la fin, mais je vais pas revenir
dessus, oui.
Qui est pour moi un peu raté.
Ouais, c'est couillu, quoi.
Mais par contre... Je vais aller loin, puisque j'avoue que ça faisait un bon moment que j'avais pas été tendue comme ça pendant un film.
C'est-à-dire que j'étais vraiment... Le moment de situation finale, vraiment la dernière seconde, on va pas le révéler, mais ça, c'était quand même prévisible, mais c'était osé.
Voilà. C'est ça. Et j'ai senti, j'étais vraiment physiquement tendue pendant tout le film, en fait.
Mais ça, c'est grâce à la mise en scène qui est d'une précision assez incroyable. C'est-à-dire que la caméra arrive à saisir tous les mouvements des personnages, les mouvements, les mouvements qui se passent dans le plan, en arrière-plan, avec une précision de montage et une précision de mise en scène assez incroyable. Et c'est pour ça qu'on est toujours sur le vif, en fait, parce que la caméra est toujours sur le vif, à essayer de capter le moindre mouvement.
De l'acteur principal vaut quand même son pesant d'or, parce que il porte le film sur ses épaules, et c'est vraiment vraiment sublime, quoi.
Bah, il joue vraiment tout seul,
il joue dans Assassination d'ailleurs, oui. C'était le tueur de The Chaser, et il est aussi très très charismatique dans Assassination, c'est le héros du film.
Donc, pour moi, c'est vraiment une bonne surprise, et j'ai passé un excellent moment. Alors, c'est pas forcément un grand film, mais j'ai trouvé très efficace et très malin pour un huis clos. Parce qu'il y a vraiment moyen de se louper quand on tourne un huis clos.
Bah, des huis clos qui sont pas chiants, c'est rare. Hein.
Bah voilà. Et celui-là, il est pour un huis clos, il est vraiment nickel, quoi.
Ah non, mais clairement. Et puis qui réussit vraiment, vraiment grâce au jeu des écrans de télévision, etc., à raconter quelque chose, à montrer les dégâts du terroriste, etc. Sinon, c'est vraiment, vraiment superbe.
Tout à fait. Pour une fois, on est unanime.
Voilà.
Yannick, tu peux nous rappeler où on peut trouver ce DVD ?
Oh bah oui, c'est Elephant Film qui l'édite, qui nous a d'ailleurs sorti un magnifique coffret avec tous les sushis Typhoon qui n'en sont pas récemment.
Paf.
Oui, c'est un peu compliqué d'expliquer ce qu'il y a dans ce coffret, mais...
y a de bons films, c'est déjà ça.
Voilà, un petit coup de pub, c'est bon.
Bon, en tout cas, on verra pour effectivement les. En cherchant un peu les films dont on pouvait parler en sortie DVD, on s'est retrouvé avec assez peu de films, donc c'est pour ça aussi qu'on a parlé de Terror Live. Et assez peu de films en salle, puisque cette année, ça on en a parlé au tout début de podcast, on a eu Hard Day, on a eu Sea Fog, Aimu, donc.
C'était quand même chiant, hein, celui-là.
Aider
qui était quand même chiant.
Qui est très chiant.
Mais ouais, mais
il était
assez
pas
intéressant en tout cas,
raté.
C'est une proposition.
Je pense que c'est un réalisateur à suivre.
Mais c'est vrai qu'on a rien eu. Alors, on parle souvent, effectivement, dans les news de projets, de films qui sont en attente. Il y a des films assez attendus. On a un Park Chung-wook qui arrive, Fingersmith.
Je pense qu'on le verra en France, celui-là. Il y a de fortes chances. Il se peut même qu'on le voit à Cannes. Parce, apparemment, il serait la sortie, en tout cas, en Corée, serait prévue à l'été 2016. C'est probable, en tout cas on croise les doigts pour le voir à Cannes.
Il y a une avant-première.
Il y a eu des films à Cannes aussi qui étaient là. Il y a eu Office que j'avais raté parce que c'était une séance de midi.
Shameless.
Et Shameless qui était présenté au FFCT.
Sortira certainement.
Pas un très bon film, mais qui sortira sans doute.
Il y a aussi Naong Jin qui a un nouveau projet.
Kok Seong.
Ouais.
Il y a le film de Naong Jin qui va sortir en 2016.
Donc il sortira.
The Man on a Hills.
Alors Naong Jin, apparemment le film doit sortir en 2015, mais là ça me paraît un peu. On est quand
short.
Même, c'est un peu short, donc certainement début 2016. Et d'après les premières informations, ça changerait un petit peu de ces deux autres films, donc The Chaser et The Murderer. Ce serait un peu moins, justement, un peu moins dans la rage.
Alors,
lui aussi, ça s'agit.
Justement, par rapport. Oui, c'est vrai que le dernier film qu'on risque d'avoir, c'est le film avec Liam Neeson, qui est parti tourner en Corée une
opération
Chromite.
Tout à fait.
Chromite.
Donc, voilà. Fait par un réalisateur coréen qui a émigré aux États-Unis quand il était petit.
Est-ce que ça fait quand même encore rêver ces films qui peuvent nous arriver et c'est parmi les seuls films qui peuvent nous arriver en France dans un circuit de distribution classique.
Finalement, je dirais qu'on rêve toujours, on rêve des films de réalisateurs qu'on connaît bien et qui nous ont fait rêver en fait. Donc Park Chan-wook, Naong Jin que j'aime énormément, Kim Ji-woon. Moi, je commence à être un peu dubitative, mais attendons de voir. Il y a juste un film.
Pourquoi t'es dubitative?
Parce que j'ai pas particulièrement aimé le film qu'il a fait aux États-Unis.
Oh, c'est un chef-d'œuvre.
Avec les chansons.
Heureusement que tu es là, Yannick.
Mais je l'assume.
Mais je sais que tu assumes, c'est pour ça que j'étais très sérieuse en disant heureusement que tu es là.
Plus, moi,
non, mais je l'ai pas trouvé déplaisant. Mais j'ai...
Vous vous rappelez le titre déjà?
C'est
The Last Stand, ouais.
Voilà.
C'est ça.
Non, mais je suis un peu dubitative, mais s'il sort en salle, j'irai le voir direct, le film. Donc j'ai l'impression qu'on reste quand même sur les réalisateurs qu'on a adorés il y a 10 ans.
En tout cas, qui arrivent en France, ou des films qui peuvent être sélectionnés à Cannes, un peu par miracle, un peu par habitude. The Shameless, à mon avis, c'était le polar coréen qui fallait avoir un certain regard.
Le réalisateur de Hardy, on n'avait rien eu de lui.
Effectivement.
Il y a quand même des nouvelles têtes qui...
C'est la quinzaine des réalisateurs où il y a... Enfin, voilà, ils cherchent quand même quelques...
Et Hardy, c'était super.
Et Hardy, c'était
super. C'est vraiment la bonne surprise de l'année.
Je me trompe peut-être, mais A Cappella aussi, l'année dernière, c'était pas... Il y a Cannes, ni rien.
Ouais, mais A Cappella, pour moi, c'était... Pas top.
Alors
A Cappella
a eu quand même un prix à Marrakech. Il a fait le tour des festivals. C'était un film qui a eu à Deauville.
Ouais.
C'est un film qui a eu une longue carrière avant qu'il nous arrive. Donc c'est vrai qu'au final, on sait quel film risque d'arriver en salle parce que on a ce circuit festivalier où on voit 2-3 films par an. Voilà, où on sait qu'ils ont cette chance d'être un peu repéré par les circuits festivaliers.
Mais quand même, globalement, c'est quand même moins alarmant que le Japon, par exemple. C'est quand même un cinéma qui fonctionne bien. Du coup, la production a quand même un gros volume, et puis au niveau de l'export aussi, quoi.
Alors, le Japon reste à 600 films produits par an, ce qui est assez énorme.
Donc, il n'y a rien qui arrive.
Quelle sera l'adaptation de manga? Et c'est une bonne transition, parce que justement, le prochain podcast, le mois prochain, sera consacré au cinéma japonais après le festival de Kinotayo. Donc, ça permettra aussi de revenir sur ce qu'on a dit sur le cinéma coréen
et
de être comparé. Et nous allons entamer notre dernière partie.